19h20. Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, il est 19h en ce lundi 7 décembre 2020. Un tout nouveau numéro de Time Sport du lundi au vendredi, on le rappelle. L'horaire 19h-20h. Au menu de cette émission, ce soir, on verra le LOSC et les deux Olympiques en grande forme dans ce championnat de France de Ligue 1 Uber Eats. Notre invité ce soir, Eric Rabé-Sandratana, de chez nos confrères de France Bleu Île-de-France, mais aussi ancien footballeur professionnel, Ben Arfa. La magie est toujours là. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça promet durant ce magnifique débat dans cette émission. Le Real Barça qui sera le moins mauvais dans ce championnat de Liga. Et enfin aussi de l'Ovalie avec des Bleus qui ont fait douter peut-être le 15 de la Rose. Et oui, les British, les Anglais. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
N'oubliez pas de réagir au 01 53 48 3000. C'est avec ton maillot, c'est Yanis. Eh oui, son magnifique maillot qui m'a fait bugger, offert par notre consultant qui est Mourad. Vous pouvez réagir, on le rappelle, hein, au 01 53 48 3000. Oui. C'est ça.
Dur Bilal, hein.
Comment?
Dur ça, aujourd'hui, non?
Ah, oui, c'est un peu dur. C'est un peu dur avec toutes les annonces que l'on reçoit par-ci, par-là, hein, ça fuse, hein. Les infos fusent, c'est pour ça. Vous l'avez reconnu, c'est Olivier G qui m'accompagne ce soir en ce début de semaine. Comment ça va, Olivier?
Ça va bien, ça va très bien. J'ai l'impression que toi aussi, t'as l'air en pleine forme. Donc voilà, bonjour à tous.
Eh oui, quand j'aperçois Freda et Tiki qui nous accompagnent aussi ce soir, notre consultante. Comment ça va?
Ça va et toi, Bilal? Bonsoir à tous.
Ça va très bien. Et Boula est de la partie ce soir. Comment ça va, Boula?
Ça va très bien, très bien.
Ouais, bien. Ah ben ça te fait sourire, hein, on l'espère, hein, sur le cas.
Le centième but de...
Aïe, on va en parler de ce centième but, ça c'est promis. Eh ben on va s'attarder sur les Lillois, c'est parti.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, justement, Lille va bien. Mais aussi l'Olympique Lyonnais, Olivier, l'Olympique de Marseille. Toujours au fameux contact d'un Paris Saint-Germain qui gagne dans la souffrance, mais Paris est là.
Ça fait combien d'années qu'on attendait que les deux Olympiques, qu'un quatrième club comme Lille et que le PSG se tirent la bourre ensemble? Enfin, bon, je ne dis pas que ça sera comme ça toute la saison, mais enfin, on a un championnat qui se nivelle, qui est avec un nivellement par le haut, pardon, où enfin il y a un véritable intérêt pour ce classement. Ça fait des années et des années, moi perso, que le classement de la Ligue 1, je ne le regardais même plus. Là, on peut s'y remettre. L'Olympique Lyonnais, ça joue de mieux en mieux de match en match. L'Olympique de Marseille, bon, il y a la difficulté en Ligue des Champions, mais l'air de rien, je crois qu'ils sont à 11 matchs à l'extérieur sans défaite, ou même plus que ça, je ne sais plus exactement. Et les Lillois, c'est très très consistant depuis le début de saison. Donc ça fait plaisir de les revoir à un tel niveau, et on espère que ça va vraiment continuer.
Ah oui.
Like. On a l'impression que la Ligue 1 redevient un peu attractive, hein, avec des équipes qui gardent un rythme, je trouve, une cadence assez, assez infernale. Les victoires s'enchaînent. Pour une fois, je trouve que l'Olympique de Marseille a bien joué ce week-end. D'habitude, ils gagnent sans bien jouer. Pour une fois, je trouve qu'ils ont gagné. Ils ont bien joué. Ils sont à 5 victoires d'affilée. L'OL, ça peut préparer.
Ouais, juste derrière. Hein.
Le PSG, je sais pas s'ils peuvent être inquiétés sur le long terme, mais je trouve que ces équipes-là, elles montrent que le championnat, il y a une certaine compétitivité. Si elles ont faim, je pense que ce sera peut-être pas comme 2017 avec la victoire de Monaco, mais on n'en sera pas très loin, je pense.
Oui. Alors justement,
rien à dire pour les trois premiers, l'Olympique de Marseille qui revient en force avec un football qui était différent de ce qu'ils ont produit depuis le début. Je les ai pas reconnus contre Nîmes, des joueurs qui pressaient très haut contre. Je croyais que Nîmes allait faire un résultat et là, je pense que Marseille a pris une ascendance dans le bon sens avec les défaites de la Ligue des Champions. Je pense qu'ils sont aujourd'hui sont rabattus.
Ouais, c'est ça, j'allais dire.
Je pense que ça leur a fait du bien de se faire éliminer de la Ligue des Champions, de pas avoir des résultats. Ça va plus les préparer pour le championnat.
Ouais, ils misent tout sur ce fameux championnat de France, Boula, en quelque sorte.
Ouais, ouais, mais bon, après il y a un truc qu'il faut pas oublier dans le championnat de France. Bon, à part Lille qui a des joueurs de plus-value. Et quand je parle de joueurs de plus-value, c'est la qualité de ce club qui est qualifié encore en Europa League.
Ouais.
Et je pense qu'ils vont se qualifier en Europa League. La différence, c'est qu'ils jouent deux championnats à Lille. C'est peut-être là Marseille où ils ont un coup à jouer au niveau des premières places.
Les Lyonnais tout aussi, comme hein, Lyon, cette, ouais. Voilà, parce que Lyon carrément n'a pas fait aucune Coupe d'Europe cette année. Ils ont réussi à garder quand même pas mal d'éléments, enfin tous les éléments offensifs importants, et on, peuvent se concentrer uniquement sur sur ce championnat pour le coup.
Ouais.
Ils peuvent avoir une ambition supérieure à d'habitude. Ils vont avoir plus de fraîcheur aussi, puisque leurs joueurs vont pas avoir l'enchaînement des matchs. Donc moi, je miserais quand même, en tout cas sur le podium, plus pour Marseille et Lyon. Mais après, je trouve que Lille joue mieux, mais ils vont peut-être être fatigués.
D'ailleurs, juste pour te couper, Fred, on voit bien d'ailleurs qu'un club aujourd'hui qui n'a pas un énorme banc pète. S'il fait la Ligue des Champions ou une Coupe d'Europe et champion, alors regarde le Stade Rennais qui fait un début de saison tonitruant, qui a un bel effectif. On voit bien.
On en avait parlé aussi.
Les pauvres, avec l'échec qu'ils ont.
C'est l'exemple.
Bah, le championnat, finalement, ça les a aussi plombés complètement.
Ouais, c'est l'exemple pour moi le plus concret de la complexité de pouvoir être performant sur deux aussi grandes compétitions que le sont la Ligue 1 ou la Ligue des Champions.
Rennes, le problème de Rennes, c'est qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire des achats au niveau des joueurs. Ils ont acheté pour 80 millions d'euros de joueurs. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas de résultats. Je pense que les arrivées, ils n'ont pas réussi à marier les arrivées avec le groupe de l'année dernière. Et je pense que Julien là, le coach Stéphane, là, et je pense qu'il a un peu perdu dans ces deux.
Ah oui, pour toi, Boula?
Si,
il est perdu.
Ouais, pour moi, il est un petit peu perdu dans le sens. Et tu le reconnais dans son interview quand il dit
Il est d'accord aussi, Olivier. Voilà. Justement, mais Lille, elle supporte la cadence, cette fameuse équipe, comparée à d'autres équipes françaises.
Lille, t'as un entraîneur comme Galtier.
On a l'impression.
Comme Galtier qui a une expérience et qu'aujourd'hui, le départ du businessman, là, le directeur sportif, je pense qu'il a fait du bien même à Galtier dans le sens dans la gestion entre les qualités de joueurs et là je pense qu'il y a plus une gestion sportive que gestion business. Ouais. Galtier il a cette qualité là de gérer bien le groupe au niveau des.
Il y a aussi un peu plus d'expérience. Galtier en
plus. Ouais, il a plus d'expérience. Certains, mais, oui. Après comment il s'appelle là, Campos là, le directeur sportif. À un moment donné, il y avait des montages de business, tout ça par rapport à aux rentrées financières. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus dans la gestion sportive que business.
Lille, je trouve qu'ils ont un super effectif.
Oui.
Je trouve que même quand ils changent l'équipe, qu'ils sont en équipe B, etc., le niveau de jeu est le même. Mais ce qui me fait un peu peur pour eux, ça va être la cadence. Je me demande si sur le long terme, au niveau du mois de mars, parce que c'est souvent là que les équipes sont dans le dur en enchaînant les compétitions, je suis pas sûr que Lille pourra tenir la cadence, mais je trouve que c'est l'équipe la plus prometteuse, en tout cas de notre championnat, et qui a peut-être le plus de potentiel.
En tout cas, tu t'es pas trompé sur le Lille, parce que quand tu vois qu'ils font un résultat en Europa League, ils font un nul contre le Milan, et quand tu vois contre Monaco, ils arrivent à enchaîner une victoire derrière Monaco, qui était pas évident, parce que Monaco, ils étaient sur une spirale de victoire, et c'est pour te dire, mais moi, quand tu me dis, il a des joueurs de qualité, certes, et après, le chef d'orchestre Galtier, je pense que c'est lui qui fait la différence dans la gestion du groupe et des résultats.
Ouais. Et justement, l'Olympique de Marseille. Équipe pour cette fameuse Ligue Uber Eats.
De toute façon, l'Olympique de Marseille va devoir se rattraper de sa pitoyable Ligue des
Champions. Il a dit, Boula.
La réalité, c'est
Olivier.
Après, juste pour revenir sur ce que tu dis, Galtier, moi je pense que c'est un pur meneur d'homme. C'est un gars avec lequel t'as envie d'aller au bout, quoi. Je pense qu'il a, c'est pour ça qu'il est, d'ailleurs, c'est un entraîneur qui est très, très demandé. Mais maintenant, pour revenir sur l'Olympique de Marseille. Après, une Ligue des Champions.
Elle est venue aussi.
Vraiment mauvaise, on va dire.
Non, ils sont passés à côté.
Il y a Villas-Boas, il y a tout un club qui doit se faire pardonner par rapport au public, parce que c'est bien beau de se qualifier, de demander la Ligue des Champions derrière, mais quand il y a rien comme cette année, c'est hyper compliqué.
Mais après, moi, tout ce qui concerne l'Olympique de Marseille, je pense que la qualité des joueurs n'est pas à l'auteur du Grand Marseille que j'ai connu aujourd'hui.
Ah ouais, mais là, si on compare au Grand Marseille.
Mais le problème, c'est que l'actionnaire qu'il y a aujourd'hui, mais pas les outils nécessaires, mais pas les joueurs qu'il faut pour avoir ces résultats en Ligue des Champions, pour jouer un petit peu de championnat. Aujourd'hui, ils jouent un championnat, c'est en fonction de leur budget.
Ouais, mais je suis obligé de te couper parce que la réalité, c'est tu parles d'un Marseille que les moins de 20 ans ne connaissent pas et qui n'existera plus.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Pas pour le moment. Mais qui n'existera plus.
Oui, mais Marseille, ça restera Marseille.
Oui, mais non, mais là, c'est pas le souci. Non, mais Marseille restera Marseille. J'ai aucun souci là-dessus.
Leonardo, il l'a dit.
Ce que je te dis, c'est que concrètement.
Boula est tacle, là. Alors, Olivier.
Non, je t'accle pas, Olivier, c'est sa réflexion.
Non, moi, je te dis juste que Marseille, le Marseille qu'on a connu, n'est plus aujourd'hui. Et peut-être reviendra. Je leur souhaite, parce qu'on a besoin de grands clubs en France. Le souci, il est pas là. Mais le Marseille qu'on nous présente aujourd'hui, c'est pas un grand Marseille. Comme tu le dis, toi-même, est-ce que les joueurs ont suffisamment d'étoffe pour représenter ce club aujourd'hui en Ligue des Champions? Je pense pas. D'ailleurs, on le voit bien sur les résultats que le Marseille fait. Et quand parallèlement, quand tu vois ce qu'ils font en championnat, soit le championnat de France est encore plus bas que ce qu'on imaginait.
Non, mais il est bas, le championnat de France.
Non, mais soit il est encore plus bas que ce qu'on imaginait. Alors, soit il faut se poser des questions aussi.
À un moment donné, c'est vrai.
Non, le championnat de France, il est
bas. On va revenir à Boula.
Mais justement, alors, Frédéric, il ne faut pas souligner que ce Marseille-là, avec des joueurs qui ont un niveau, voilà, très moyen, arrive quand même à faire des résultats. Bon, évidemment, on oublie la Champions League, mais arrive à faire des résultats en Ligue 1. Ça fait 2 mois qu'ils enchaînent les victoires. Ils y arrivent quand même. Donc, ils ont peut-être pas la qualité. Ils ont peut-être, je sais pas si c'est le mental, je sais pas, mais ils ont quand même quelque chose qui leur permet de se maintenir dans les premières places en Ligue 1. Oui,
non, mais je suis d'accord avec toi, mais ce qui est bien,
il faut quand même garder le rythme. Ils ont 2 matchs de retard, Marseille.
2 matches de retard, s'ils les gagnent, ils sont potentiellement leaders.
Ils sont quasiment leaders.
Ouais, mais ça, à la longue, au niveau de l'effectif, et tu parles de Lille, il y a une qualité aujourd'hui, parce que vu les problèmes d'argent qu'il y a aujourd'hui dans le championnat de France, aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Je préfère encore un Lille qui travaille sur la formation, qui sort les jeunes, qui sort des jeunes et qui arrive à avoir des résultats avec des jeunes et qui sont plus dans la lumière et qui sont plus des joueurs de plus-value en Europe. Et ce qui est bien, c'est que ils sont condamnés en France par rapport au problème des droits TV, ils sont condamnés à travailler plus sur la formation.
Ouais.
Quand je vois le petit à Lens, le petit Dagba là, qui a marqué 2 buts, qui est prêté par Paris, tu sens que Lens, ils ont récupéré un joueur. Et bon, après, c'est le réservoir parisien qui est intéressant, ouais, dans la formation.
C'est vrai, ça c'est assez extraordinaire. Il a composé le 01-53-48-3000 et c'est Karim depuis Lyon. Bonsoir Karim.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Vous voulez réagir, je crois, sur l'OM, c'est ça?
Bien sûr, mais avant tout, je voudrais dire, moi j'ai entendu à la radio.
Alors,
on nous dit au 01-53-48-3000, je ne sais même pas pourquoi, j'ai pris le téléphone, je l'ai fait.
Ouais. Alors, comme d'habitude, on vous écoute. Dites-nous tout, Karim, parce que là, on est avec Boula, Olivier et Frédéric avec nous.
Voilà, donc moi, première chose, alors, sur Marseille.
Ouais.
Bon, franchement, tout le monde le dit en ce moment, au niveau de la Ligue 1, c'est pas ça.
Ouais.
Pourquoi? Parce que on a déjà discuté de ça, la formation, on va pas rentrer dans le détail. Je dirais simplement ici que bon, moi j'ai vu un match de l'OM et bon, que j'ai vu un certain Pouvin.
Ouais.
Et franchement, ce joueur, j'ai été à la télé quand il a fait ça. Seulement, à un moment donné, j'ai une action. Il y a un petit côté qui a le ballon dans les pieds.
Oui, Thauvin.
Thauvin, il va lui prendre le ballon dans les pieds pour lui dire, tu sais pas jouer, toi, laisse-moi faire.
Ah, quand même.
Oui,
ouais.
Le gars, il avait le ballon dans les pieds, il fait la passe, Thauvin, il passe le ballon, il prend le ballon.
Après, ouais.
Il met une passe à angle fermé, à un moment donné. Après, bon, passons sur Thauvin. Et j'ai répété tout de Marseille, il n'est vraiment pas impressionnant. Ah, franchement.
Marseille ne fait plus peur, peut-être, Karim.
Non, mais.
Non.
Il a dit à juste titre tout à l'heure un nouveau même.
Oui.
C'est pas le Marseille d'avant.
C'est vrai, c'est Boula qui l'a dit.
On vit sur le passé, avec Tom.
À chaque fois, même Olivier le disait.
Mais ça vaut, mais franchement, les tous, on a l'impression que c'est un club qui a gagné 10 des champions du championnat. Et je veux dire, voilà, aujourd'hui, tout Marseille, pour le mettre à sa place, c'est pas un grand club.
Marseille n'est pas un grand club, selon vous, Karim. Oui, Boula.
C'est sûr que tu dis c'est pas un grand club, mais bon, peut-être parce que tu connais pas l'Olympique de Marseille, mais Marseille, ça reste. Leonardo, pour te dire, qui est directeur sportif du PSG,
ouais.
Il s'est permis de dire à un moment donné dans une interview, Marseille, c'est vraiment un club de football.
Yes, mais au niveau des résultats, Boula, en ce moment. Si on reste stricto sensu sur les résultats.
Non. Il dit pas. Non, quand il dit ça, Leonardo.
Moi, je te parle de. Je pense que ce que dit Karim. Ce que dit Karim, c'est sur les résultats.
Non, mais même les résultats. Aujourd'hui, le problème de Marseille, c'est la présidence, c'est les actionnaires. Les actionnaires, ils sont pas là pour faire un grand club que les supporters méritent à Marseille et que la ville mérite. Parce que faut que tu saches que Marseille, avec Lens, c'est un des meilleurs publics de France. Avec Lens.
Tu me prends la perche. Je vais le dire, Marseille, c'est un grand club par ses supporters. Mm-hmm. Et pas par son équipe.
D'accord. Si c'est un grand club par ses supporters, oui. De n'importe quel club au monde, que tu veuilles ou tu veuilles pas, c'est les supporters, c'est le signe d'un club, c'est les supporters.
Oui, mais il n'est pas à la mesure de tes supporters. Il n'est pas à la mesure. il n'est pas à la mesure. Je veux dire, si tu prends, certains clubs comme le Barça à l'Orelal, oui, c'est un grand club, par ses supporters, par les joueurs. Marseille, il existe par rapport
au sport. Enfin, le Barça va encore moins bien que Marseille en ce moment.
On va en parler en plus.
C'est relatif.
Après, qu'est-ce que je voulais dire?
Ben Arfa, c'est pas le sujet, c'est après. Là, on peut parler de Lyon, Karim. Lyon, que vous connaissez bien.
Je suis limité.
Allez-y.
J'ai déjà parlé et tout. C'est un joueur et tout. Il va faire une apparition. C'est quoi sa carrière à Ben Arfa? On dit que c'est un grand joueur, c'est un gars technique,
ouais.
C'est un gars qui a une grosse technique, mais quand on voit sur la régularité, Ben Arfa, c'est un petit joueur. C'est parce qu'il fait un footballeur dans la
petit vie. Joueur, selon vous.
Non, je vais répondre.
Allez, Boula.
Je vais te répondre.
Avec Karim.
Ben Arfa, en qualité intrinsèque, c'est un des meilleurs de sa génération. Après, le problème, c'est que tu le vois, ce qui est dommage, et c'est du gâchis quand je vois ça, quand je vois les deux matchs qu'il fait, et quand je vois la pénétration de qualité technique qu'il fait. Mais où ce qui est dommage? Après, c'est l'entourage de Hatem qui a fait de Hatem une mauvaise carrière. Et Hatem, il est victime de sa carrière, de sa gestion.
Exactement, c'est possible ce que tu dis là. Je dis pas le contraire. Je dis que Hatem Ben Arfa, on va pas rentrer dans qu'est-ce qui s'est passé dans sa carrière, les influences qu'il a pu avoir et tout. Mais en attendant,
on appelle ça le pourquoi du comment.
Ouais.
Oui, tu sais quoi là?
Alors.
Ben Arfa, il y a plein de joueurs comme ça mais qu'on connaît pas, qu'ils ont ce côté où la famille, le club, tout ça, et ils ont réussi. C'est ça la force d'un joueur. La force d'un joueur, elle est mentale. Et pour moi, Ben Arfa, il
n'a
pas le mental dans la régularité.
Aïe, ça pose problème alors.
Est-ce que tu penses que tous les professionnels qui le sont devenus, qui sont forts,
ouais.
ils ont eu la vie facile?
Non, pas tous, c'est vrai. Pas tous, Karim.
Très, très dur. Mais quand même, avant tout, Zidane l'a dit.
Oui.
À 80% du mental. Et Ben Arfa,
il n'en avait pas, ouais.
C'est un gros joueur très très technique qui est un des meilleurs au monde.
Ouais.
Et par contre, Ben Arfa, il n'a pas été le footballeur qu'on attendait, il ne le sera jamais.
Assez solide selon vous. Boulon, on termine. Concernant Ben Arfa et avec Karim aussi, on termine.
Moi,
avant la pause.
Moi, je vais résumer Hatem. Le problème de Hatem, c'est que il a un schéma tactique où que toute l'équipe joue pour lui. C'est-à-dire que à Bordeaux, toute l'équipe joue pour lui. À Nice, toute l'équipe joue pour lui. Et tu lui donnes le ballon, il sait ce qu'il a à faire avec le ballon. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le football, tous les coachs au monde, faut s'adapter au coach. Et lui, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à s'adapter à des coachs. Quand on lui dit de défendre, il veut pas défendre. Et puis, bon, après, tu prends un mec comme Jean-Louis Garcia. Il a su le prendre en ce moment. Il le fait pas trop défendre et il y a une équipe qui joue autour de lui et qui lui donne les ballons qu'il faut.
Oui, Gasset pour ça. Mais en plus, je pense que Gasset, c'est un affectif. Et je pense que Hatem Ben Arfa est un affectif également.
Mais Gasset, il s'est inspiré de Claude Puel.
Non, certainement. Mais en tout cas, Gasset. Non, mais peu importe. C'est de qui s'inspirer là-dessus. Je pense que Gasset recrute.
Peu importe. Mais le problème, c'est que
tu ne citais Garcia juste avant. Parce que tu citais Garcia avant. C'est pour ça que je reprenais Gasset.
Parce que Jean-Louis Garcet, il le connaît à travers ce qu'il a fait. Il a vu ce qu'il avait fait à.
Parce que je pense que Hatem, s'il vient à Bordeaux aujourd'hui, c'est pour le discours de Gasset. C'est ça que je dis, en fait. Quand il vient à Bordeaux, il a quand même plusieurs propositions.
Ouais, peut-être. Je suis d'accord avec toi.
Et tu vois, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il a une totale liberté dont tu parlais justement avant. Il a besoin d'être libre. Gasset lui donne cette liberté-là, lui donne un peu les clés de la maison. Et c'est vrai que pour l'instant, ça match. C'est quand même un beau mariage.
Le problème de Ben Arfa, c'est que le talent ne fait pas tout. On parle encore de lui comme si c'était un jeune en devenir, alors qu'il a 33 ans. Donc pour moi, il est plus vers la fin de carrière. Il a 33 ans. Il est de 87, il a 33 ans.
C'est sûr que.
Il est plus vers une fin de carrière que début. Mais on parle encore lui comme un jeune prometteur.
Oui, mais c'est les médias, c'est les médias qui font tout.
Il a le talent, il a le potentiel, mais pour moi, il a raté le train. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu exploiter son talent à sa juste valeur, et malheureusement, on le verra toujours comme un talent gâché.
Merci Karim d'avoir réagi avec nous sur l'antenne de Beurre FM, Karim. Allez, rapide, Karim.
On a pu. S'il va avoir une place, il va chez nous, vous savez pourquoi? On remarquerait qu'aux États-Unis, quand il tombe une météorite, c'est toujours aux États-Unis. Quand il y a une belle femme, elle est toujours là-bas. Le plus bel homme est là-bas. Chez nous, en Algérie, on n'a pas la plus belle chèvre, on n'a pas le plus bel homme, on n'a pas la plus belle femme. On est champion du monde de rien. Donc, il aura sur place.
Ah ben Yannis, il est d'accord aussi avec ça. Merci d'avoir composé le 01 53 48 3000. Une courte pause avant de revenir avec notre invité Eric Rabé, Sandra Tana. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, et oui, après cette première pause, et ça parle encore avec Frédéric, notre consultante, et aussi Olivier, et sans oublier Boula, le 0153483000, si vous voulez réagir avec notre invité de ce soir, on le rappelle, Eric Rabessandratana, avec nous.
Time Sport.
Bonsoir Eric, comment allez-vous? Comment ça va Eric?
Eh ben ça va, bonsoir à tous.
Bonsoir, un plaisir d'avoir encore avec nous Eric Rabessandratana qui répond toujours présent et on l'en remercie vraiment pour sa disponibilité. Pour merci. Son 137e match sous les couleurs parisiennes, le gamin de Bondy, je veux bien sûr parler de Kylian Mbappé, a inscrit son 100e but et égale Dominique Rocheteau. Eh oui, une autre gloire du football français. Il s'invite dans ce fameux top 4 des meilleurs buteurs du club de la capitale. Va-t-il dépasser un certain Cavani avec ses 200 buts, ses 200 buts. Non, mais j'ai fait exprès, t'inquiète pas Yanis, t'inquiète pas. Va-t-il les dépasser? Selon vous, Eric.
Je suis pas sûr, je pense qu'il sera peut-être parti avant, hein. Alors j'espère que finalement il va rester à Paris, mais j'ai quand même du mal à croire qu'il n'ait pas envie d'aller voir un petit peu ailleurs, il est quand même très jeune. Donc il a possibilité d'aller connaître d'autres horizons. Donc maintenant bon, il peut avoir envie aussi de rester à Paris le plus possible et après seulement partir. Mais je pense qu'il aura envie de partir aussi peut-être plus tôt que prévu.
Alors Frédéric, une réaction
justement,
pour Eric.
Comme on parlait de sa possible continuité, moi j'allais te demander. Bonsoir Eric, si tu pensais que Messi au PSG c'était un rêve ou une possibilité réelle.
À l'heure actuelle, j'ai du mal à croire que ce soit possible sur le montage financier, étant donné qu'on est dans une période quand même assez difficile avec pas beaucoup de supporters dans le stade et donc pas beaucoup de rentrées d'argent. Il y a certainement des maillots qui se vendent, mais beaucoup moins que si jamais vous aviez la boutique ouverte. Donc on est en difficulté financière, même si c'est le Qatar et qu'il y a encore de l'argent derrière. Donc peut-être qu'on peut faire un montage. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire, étant donné que ce serait quand même une bonne pioche parce qu'il n'y a pas de transfert à payer, mais il y a quand même éventuellement 80 millions de salaire à donner, ce qui est quand même énorme.
Et si jamais Messi vient à Paris, on sait que c'est le départ de Kylian qui suit derrière, parce que sinon ça fait 3 salaires complètement dingues.
Ça ressemblerait à ça, sauf que je me dis que dans son ambition, peut-être que Kylian, si Messi arrive, il aura peut-être encore plus envie de rester à Paris. Donc là, je ne vois pas comment le montage pourrait être fait par rapport à Neymar et Mbappé et Messi à payer.
Rabé,
Alors, c'est Boula avec vous, Eric.
On se connaît, Rabé.
Oui, c'est bien.
Ça va, tu connais un petit peu le football, mais je pense que Messi, c'est pour moi, c'est ça va coûter 0 franc parce que au niveau, t'as vu les quand ils ont fait venir,
ils peuvent répartir sur le d'années de contrat. Ouais.
Et non, et après dans le merchandising, quand tu regardes, tu prends la Juve quand ils ont fait venir Cristiano Ronaldo, ils ont fait un montage, ils ont gagné de l'argent, ils ont réussi à gagner de l'argent. Et quand tu parles du Qatar aujourd'hui, ils sont à un an de la Coupe du Monde au niveau média. C'est une goutte d'eau pour eux au niveau de la pub, au niveau mondial.
Le fait qu'ils peuvent faire un montage avec Messi ambassadeur pour le Qatar éventuellement.
Voilà.
Ça en salaire.
T'as tout compris. Il y a tout un montage.
Que ce soit légal, c'est tout.
Ouais. Ça soit légal. Après, c'est un arrangement qui se fera peut-être du Barça. Il va savoir qu'ils vont traiter ça avant janvier. Tu sais aujourd'hui, mais Messi, je pense qu'il y est. C'est fini au Barça, c'est fini.
Moi, j'ai du mal à croire qu'il va rester là-bas. Alors après, est-ce qu'il va aller à Manchester City? Moi, j'ai du mal à croire que le jeu anglais soit fait pour Messi. Donc je sais pas trop. J'ai du mal à savoir exactement.
City, ils ont un peu les actionnaires, un peu, et puis Guardiola, il le connaît bien.
Hein, bien sûr.
Ils ont vécu des choses ensemble par rapport à son éclosion dans le niveau international. Et quand je vois Paris aujourd'hui, c'est pour ça que le club en lui-même, Sache que toi, t'as connu les belles années de Paris où il y avait pas d'argent, mais il y avait une vraie équipe,
des valeurs.
Voilà, des valeurs. Ngoti, toi, tu prends tout ce club derrière. Et quand tu regardes aujourd'hui la formation du PSG et quand ils éclatent de partout, je pense que le pari qu'on est, qu'on peut aimer, c'est pas ce pari d'aujourd'hui avec.
Il est beaucoup moins attachant, alors qu'on devrait pourtant être beaucoup plus attaché avec le nombre de victoires, les trophées qui ont été gagnés depuis des années. Mais on sent pas la même détermination et le même cœur qu'on pouvait trouver avant. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, je sais pas comment les gens voient le club, si c'est les victoires et les trophées qui comptent ou si c'est l'engagement des joueurs. Des fois, j'ai du mal à comprendre.
Par contre, Rabé, là, il y a un truc où je pense que tu. Moi, je vois mal Kylian Mbappé avec l'ego de Messi, l'ego de. Parce que c'est des joueurs qui ont une forte ego. Tu prends Neymar, c'est différent, mais pour, Messi, s'il arrive, c'est pour être le patron.
Il sera le patron. Voilà. À la limite, moi, je me dis que Mbappé, le seul truc qu'il veut faire, c'est profiter du fait que tu as deux passeurs sensationnels. Et que ça va lui augmenter ses stats et que ça va être fantastique pour lui. C'est ça que je pense, moi.
Je pense qu'il faut qu'il parte, moi. Si demain Messi arrive, il faut qu'il parte. Parce que il peut. Tu sais, il y a des joueurs. Après, mentalement, faut voir comment il va être. Mais c'est pas évident de rester dans une gestion comme ça. Pour lui, parce que
d'être avec deux superstars à côté de lui.
Parce que lui, il veut être Ballon d'Or.
Alors qu'il veut être superstar, exactement.
Il veut être Ballon d'Or. Et puis, à un moment donné, les paliers de Kylian, ce qui va faire la différence, c'est d'avoir une équipe qui joue autour de lui, comme ils ont joué autour de Cristiano Ronaldo, comme ils ont joué autour de Messi.
Les joueurs que tu vas avoir à Paris qui sont capables de te donner les ballons, je suis pas sûr que pour l'instant tu les as au Real, parce que ils arrivent en fin de cycle et qu'ils vont pas garder grand monde.
Pas faux. Ouais. Justement.
Un joueur comme Neymar est allé au Paris Saint-Germain pour être la star ultime. Alors là, il voudrait retrouver Messi dans une équipe, mais est-ce que il pourrait pas se retrouver encore éclipsé par la présence de Messi dans la même équipe que lui?
C'est difficile à dire parce que là, il est en terrain conquis. Messi arrive forcément en superstar parce que c'est quand même le meilleur actuel, bien sûr.
Ouais.
Mais voilà, ça peut. Ils ont une telle complicité que ils peuvent peut-être éventuellement à un moment donné se partager, j'allais dire, la gloire.
Et est-ce que tu penses que Tourelle, il pourrait tenir le vestiaire? Parce que ça fait quand même.
Ah oui, avec ses cadors.
C'est sûr que non.
Tourelle, de toute façon, à mon avis.
Non, mais moi,
selon Eric.
Tourelle ne sera pas là la saison prochaine, c'est sûr.
Aïe, malheureusement.
Ben non, mais c'est une évidence. Ouais. Déjà, lui, il a dit qu'il n'avait pas envie
de continuer
dans ses conditions. Et puis, de toute façon, je pense qu'on aurait déjà réglé le cas Tourelle si on avait envie de le garder.
En tout cas, un entraîneur intelligent comme Klopp. Ou comme Mourinho ou Guardiola, pourtant on les a sollicités pour venir à Paris. Bon, à part Mourinho, mais Guardiola il veut pas venir. Klopp, avec au niveau de sa com, au niveau de son image, dans la manière qu'il s'exprime, je pense il correspond pas du tout à la philosophie du PSG. Parce que à Liverpool, c'est lui le patron, il fait ce qu'il veut.
Bien sûr, je vois pas pourquoi il partirait de là-bas. Il est tellement bien que je comprendrais même pas pourquoi il part.
Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, les grands entraîneurs au monde, aujourd'hui, quand t'arrives dans un club comme le PSG, tout est décidé du Qatar.
De toute façon, il faut quelqu'un qui soit capable de mobiliser. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un Neymar qui est vachement plus fédérateur dans le vestiaire et sur le terrain. On peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il n'empêche que dans les moments décisifs, c'est lui qui est là. Beaucoup plus qu'Mbappé, même si Mbappé est décisif aussi. On peut arrêter de le critiquer aussi pour ses stats. Alors qu'il a des stats extraordinaires, Mbappé à 21 ans. Il faut redescendre d'un cran pour Mbappé et apprécier le fait qu'il fait déjà des choses extraordinaires. Mais voilà, le mec décisif pour l'instant, c'est Neymar. Au moment où il faut gagner à Manchester, Neymar, il est là.
Je suis d'accord avec toi.
Voilà, et dans d'autres matchs aussi. Alors, c'est vrai qu'on peut. Il s'est blessé et c'est un peu le drame de toute cette histoire depuis qu'il est arrivé. Parce que s'il s'était pas blessé, je pense que la seule année où il se blesse pas, tu vas en finale de Ligue des Champions, même si la formule est un petit peu adaptée à cause des conditions. Il n'empêche que tu vas en finale de Ligue des Champions. Pour moi, c'est pas Tourelle qui emmène le PSG en Ligue des Champions, c'est Neymar.
Ouais, mais c'est pas le problème, c'est que c'est pas. Je suis d'accord avec toi, Neymar en qualité intrinsèque, c'est un génie. C'est, je pense que c'est le joueur qui a, je pense que c'est le meilleur joueur qu'il y a eu à Paris depuis depuis des années. Je pense que il est au-dessus de tout le monde. Par contre, dans la mentalité, c'est différent.
Ouais.
Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Quand tu vas à City, à la United, tu vas gagner 3-1, il va mettre 2 buts. Et c'est vrai que il te fait un coup de magie, il te fait un coup de, tu sais, sur sa reprise de volée, son premier but, déjà,
C'est pas facile.
Eric, justement, on va revenir sur le Paris Saint-Germain. On reste encore avec Neymar et toute cette plate de stars. Cette année, le championnat sera-t-il plus attractif que les années précédentes? Et peut-être Paris plus grand ou moins fort?
C'est surtout que les conditions sont difficiles. Donc on a vu que à partir du moment où ils n'avaient pas tout le monde et que qu'il y avait de la fatigue présente, c'était difficile. Là encore une fois, à Trèves, il va pas y avoir beaucoup de coupures. Hein. Il va y avoir une semaine, je crois, tout cassé. Donc ça va être encore une reprise assez difficile. Il va falloir gérer tout ça. Moi, je m'inquiète sur l'accumulation en fait, parce que si on enchaîne encore derrière. Il va falloir très très bien gérer les joueurs, ce qui n'a pas spécialement été le cas depuis que Tourelle est là. Gérer les efforts réalisés et les joueurs blessés, ne pas les mettre trop tôt, de faire un roulement. Ça, j'ai aimé la composition à Montpellier. Alors, je dis pas ça parce qu'ils ont gagné, mais sincèrement, depuis le temps qu'on lui demande de mettre des jeunes et de faire tourner et de permettre aux autres de récupérer, et ben ça s'est soldé par un match plutôt sérieux et appliqué. Et une équipe qui a fait le match qu'il fallait. Donc je me dis que peut-être ça peut donner des idées à Tourelle en disant voilà, je peux m'appuyer sur les autres derrière.
Allez. Pour appuyer ce que disait Eric,
Olivier, on l'écoute avant la fin.
Kylian disait il y a encore 2-3 semaines que pour lui il avait l'impression, le sentiment en tout cas physiquement, d'être encore sur la saison précédente, c'est-à-dire comme il n'avait pas eu vraiment de coupure, son corps était, il n'était pas en début de saison, il était plutôt sur une saison où il était déjà à plus de 60-70 matchs et que justement les joueurs sont épuisés pour en ce moment. Ça engendre aussi donc toutes ces blessures, toutes ces cascades de blessures qu'il y a un peu partout, notamment au Paris Saint-Germain.
C'est vrai
que on demande à un PSG d'être toujours plus performant, mais que en côté de ça, il y a à sans pause les corps à un moment donné se fatiguent et pour elle, il n'a pas le choix que de faire tourner.
Ouais, voilà, réaction.
Rabé, tu le ressens ça? Tu sais, comme le championnat il s'est terminé un peu brusquement, moi j'ai l'impression que cette année ils sont plus sur la fin du championnat de l'année dernière. Et tu vois, il y a cette coupure psychologiquement, ça a joué sur l'année en cours en ce moment.
L'état d'esprit aussi.
Parce que moi j'ai pas cette approche là. Quand tu fais le calcul et que tu regardes un petit peu comment ça s'est passé. T'as quand même une coupure de 3 mois où les mecs s'entraînent tout seuls. Alors quand tu t'entraînes tout seul, c'est jamais pareil que quand tu t'entraînes.
Exactement.
Donc pour moi, cette coupure leur a permis de récupérer. Et après, tu fais une préparation. Alors après, c'est la question que tu dois te poser, c'est quelle préparation tu as fait pour préparer les matchs qui arrivaient derrière. Parce que c'est fallait être performant tout de suite. Donc s'il a fait une préparation pour seulement ces 5 matchs qui arrivaient. Pour moi, c'est un souci. C'est-à-dire que là, normalement, tu dois faire une préparation normale, quitte à voir plus tard pour faire un rééquilibrage dans la saison, mais tu dois faire une préparation de début de saison. En plus, t'es dans les temps par rapport au timing. T'arrives en juin, tu fais ta préparation, tu fais tes matchs de coupe pour préparer le reste avec les matchs amicaux. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une préparation normale. Donc, si t'as pas fait une préparation normale, là, c'est pas normal.
Mais dans la gestion du PSG, il y en a, ils sont partis chez eux au Brésil. Quand il y a eu le premier confinement, ils sont partis au Brésil. Ils sont revenus un mois après. Ils ont préparé leur finale de Ligue des Champions. Dans la finale de Ligue des Champions, ils sont repartis en vacances et ils se sont retrouvés. Quand tu fais une reprise.
Une semaine de vacances, ça casse rien.
Oui, mais ça faisait 3 mois. Ça faisait 3 mois, 4 mois. Qui se retrouvaient dans une situation où qu'à un moment donné
ils sont revenus
pas...
avec la Covid.
Voilà, exactement.
Ouais. Non, c'est ça surtout. C'est
ouais, mais ça, c'est ça surtout que tu les as pas dans tes mains. Quand t'as pas le groupe dans les mains, automatiquement, tu vont où? Ils vont sortir, ils vont s'amuser, ils vont. Ils étaient où? Ils sont pas restés à Paris. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Non, mais c'est pas un problème d'être à Ibiza parce que à Ibiza les trucs étaient fermés hein, comme partout. Donc ils se sont pas.
Bon, ils ont le droit de s'amuser aussi. Bien sûr. Pour relâcher la pression.
Eric, je te coupe juste
rapidement. J'avais une question pour Eric avant la pause.
Ce côté pression psychologique dont parlait Mbappé, où il a l'impression que cette saison ne s'arrête pas et qu'il est toujours sur la saison dernière.
Alors,
toi, t'en penses quoi du coup?
Non, je suis d'accord. Quand tu n'as pas le, quand tu n'as pas la coupure déjà même mentale de te dire voilà, bon là c'est fini, on va se reposer un peu, et après je pense que tu as l'accumulation et puis le stress de la situation, parce qu'on parle jamais, mais le fait d'avoir le Covid et d'avoir un virus comme ça qui traîne,
ouais,
ça met des joueurs en situation un petit peu particulière. Les efforts sont différents, t'as un peu peur de choper le truc en même temps, donc
ouais,
voilà, il y a toutes ces choses là qui font que la préparation est plus la même.
Eric, avec nous, justement, que pensez-vous des rumeurs de départ de Zinedine Zidane du côté de Madrid? Il va terminer cette saison?
Selon vous? C'est difficile, difficile à dire. Ce serait quand même dramatique de se séparer de Zidane.
Eh oui.
On parle de Zidane, ça peut être le même cas pour Koeman. Hein. On voit les deux.
Deux.
C'est une saison particulière pour les deux.
En plus, on a Grande Espagne.
Atlético, il cartonne, donc. Non, c'est difficile. Moi, j'espère pour lui qu'il va rester parce que il est
aussi
qui est en fin de cycle, hein, donc il va falloir changer beaucoup de joueurs. Et on a Eden Hazard qui a jamais performé parce qu'il a été tellement blessé qu'il a jamais pu être utilisé comme il voulait. Donc voilà, il y a tous ces trucs là qui font que Zidane il subit aussi la situation. Hein.
Un grand merci à Eric Rabé, Sandra Tana, on le rappelle, ancien footballeur et aussi fou amoureux du football qu'en France mais ailleurs, ancien joueur du Paris Saint-Germain et aussi de la team à Bruno Salomon, notre confrère du côté de France Bleu Île-de-France. La dernière pause et on reviendra avec le fameux Real Madrid de Zidane ou encore Koeman et le Barcelone, sans oublier aussi Atem Ben Arfa. Bye bye.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman.
Eh oui, la dernière partie de cette émission qui est Time Sport, 19h-20h, toujours en live. Ça nous écoute, eh oui, comme d'habitude. Il y a pas mal de personnes, des auditrices, des auditeurs, notamment Areski, qui nous écoute depuis la région parisienne, Paris Intramuros et Badre, avec Karima qui nous écoute ce soir aussi. Bravo Aboula pour ses dires concernant Atem Ben Arfa. On n'a plus trop le temps, Frédéric. Hein, on va s'attarder sur le Real et le Barça, comme le disait Eric Rabé, Sandra Tana, notre invité de ce soir. Avec toi, Olivier, c'est parti.
Time Sport. Le duel. Le duel.
Eh oui, qui sera le moins mauvais entre le Real Madrid et aussi les Barcelonais? Deux équipes moyennes désormais, les deux ogres. Font-ils toujours peur, Olivier?
De par leur nom, ils feront toujours peur. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas du tout le rendement qu'ils ont pu avoir les années précédentes. On voit qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de changements au Barça ces dernières années. On sent que cet été il y a eu ce qu'on peut appeler pas une purge mais presque quand même, il y a eu beaucoup de chamboulements, il y a un nouvel entraîneur qui vient, il y a aussi des nouvelles demandes, il y a un Lionel Messi qui a souhaité partir. Du côté de Madrid, c'est encore autre chose. Je dirais plutôt que c'est une équipe qui est en fin de cycle et qui a besoin de se reconstruire avec le temps, et je pense que pour le coup le Covid n'a pas aidé pour la reconstruction, parce que pour le coup on est plus sur un calcul de comment ne pas trop dépenser ces derniers temps. Mais en tout cas non, aujourd'hui le Real Madrid n'est pas le Real qu'on souhaiterait voir, comme le Barça n'est pas le Barça qu'on souhaiterait voir. Heureusement il y a aussi l'Atlético qui nous fait pour le coup
rêver.
Comment
rêver, j'allais dire
rêver peut-être pas, mais en tout cas qui fait une super saison.
Ouais,
d'ailleurs pour la petite stat, avec 8 victoires et 2 matchs nuls à l'Atlético, les deux fois où c'est arrivé, ils ont été champions. C'était en 94-95, je crois, et en 2000, dans les années 2000 aussi également.
Les Colchoneros jouent bien mieux que les Barcelonais ou encore les Madrilènes.
Une impression que toutes les équipes peuvent battre le Real et le Barça. C'est assez dramatique quand on
voit les deux clubs. Cadix qui bat le Barça 2-1 hier.
Cadix qui est promu, mais on n'a jamais senti le Barça capable de les battre, de revenir.
Ouais.
Lionel Messi, comme quoi, il aurait dû partir. Le Barça aurait dû le laisser partir parce que j'ai parfois l'impression qu'il joue à 10. Il est absent. Messi, il n'est pas là. Il n'est pas là sur le terrain, il n'est pas là dans la tête. Et il n'y a personne pour sauver le Barça. Ils sont en grande difficulté. Koeman, je ne pense pas que ça soit l'homme de la situation. Je le trouve très fébrile dans ses débuts. On sent qu'il ne sait pas encore quelle est son équipe type. Voilà, il y a tout qui est à refaire. Zidane s'est accordé un sursis ce week-end. Maintenant, je suis pas sûr que ça va suffire. Il a une finale mercredi là, le match de la Champions League. Pour moi,
scandale,
ça va.
Le scandale, si c'est Zidane. Franchement, moi, ça.
Mais oui, mais en fait, ça montre l'exigence des clubs comme le Real Madrid.
Del
Bosque, il gagnait la Champions League et la saison d'après, il s'était fait virer.
Oui, tout à fait.
En fait, c'est les saisons qui comptent. Malheureusement, les gens ont la mémoire courte.
Mais quand un club en fin de cycle comme le Real l'est,
c'est vrai que c'est pas la
faute. Il faut trouver le fusible et que le fusible, tu choisis que ce soit.
Mais malheureusement, c'est toujours l'entraîneur.
Donc Zidane, là, je trouve qu'avec le palmarès qu'il a, avec tout ce qu'il a fait pour ce club, le don de sa personne par rapport à ce club, le virer comme. On verra ce qui se passera.
Non seulement c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du club, c'est aussi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce club. Il a tout fait. fait pour ce club. Mais tu sais qu'il faut toujours trouver des coupables. Et
absolument.
C'est malheureusement.
Mais je pense que
toujours...
Sataka Zizou n'est pas nécessairement la solution quand aucun recrutement n'a pu faire.
Il a une qualité, Zizou, à Madrid. C'est qu'il a, il a vécu des belles années avec tous ses joueurs. Aujourd'hui, même si physiquement ils sont pas au top, il tire le maximum d'un groupe ou que il veut pas à un moment donné aller prendre des joueurs et les remplacer. C'est un noyau. Le Real de Madrid, c'est une histoire avec Zizou et ses joueurs, c'est une histoire. Il a du respect pour ces joueurs là et il arrive à gérer son groupe. Il a pris Eden Hazard. Je pense que sur Eden Hazard,
ça a été un flop,
le seul
certains...
truc que je peux dire que sur Eden Hazard,
c'est
trompé.
C'est une erreur
en qualité de joueur. Je pense qu'il avait bien fait de le prendre, mais le problème c'est que il répond pas présent physiquement et au niveau de son hygiène de vie, Eden Hazard. C'est peut-être pour ça. J'ai vu une vidéo d'Eden Hazard quand il voit travailler Cristiano Ronaldo, il disait j'ai pas besoin de travailler physiquement comme lui, avoir un corps sculpté pour eux. Et finalement aujourd'hui le problème de Eden Hazard, c'est son poids. Et Zizou là-dessus, il s'est peut-être un petit peu fait tromper par Eden Hazard qui fait pas le nécessaire au niveau hygiène de vie. Mais après, tout en sachant le Real de Madrid, et c'est une grosse figure emblématique du club, c'est Zizou. On vire pas Zizou comme ça.
Ouais. Et en plus Sergio Ramos a moré.
Effectivement, on ne vire pas Zidane.
Je
pense que s'il doit partir, il y a un accord avec Florentino Pérez, et Florentino Pérez, il peut pas toucher parce que quand il voit le problème du Barça aujourd'hui, qui est en reconstruction, et là je reviens à Coman,
tous les
tu dis
clubs,
c'est pas l'homme de situation. Ouais. Coman, il vient d'arriver au club. Il est en train de faire un ménage déjà, il a réussi à ressusciter Griezmann. Déjà
ça
dans le jeu, dans la non mais tout dépend des matchs, mais vous allez voir un nouveau Griezmann avec Coman, et je sens qu'il est en train de depuis l'arrivée de Coman en équipe de France, il a été pas mal la dernière, et je vois dans les matchs de championnat, il a été décisif sur le but qu'il met un petit peu des 30 mètres. Et moi, à mon avis, Coman, il sait ce qu'il fait avec dans le club, il connaît très très bien le club. Il connaît très très bien le club. Il a joué au Barça, il sait, et il sait ce qui va et ce qui va pas. Il prend un petit peu la position par rapport à Messi. Il prend la prise de position par rapport à Messi. Au niveau communication, par rapport à ce qui se passe à Paris. Bon, après, comme il dit, c'est son choix. Mais un mec comme Daniel Auriolo, quand il envoie ce message là, il dit pas n'importe quoi. Je pense que quand il dit,
on l'avait reçu sur l'antenne.
Cette info, il l'a et elle est sûre.
Mais s'il viendra à Paris alors.
Ouais.
C'est ça, elle est sûre. Ouais.
Il n'a pas l'habitude de dire des.
Ouais. Ouais, des bêtises.
Je ne pas là-dessus. J'irai plutôt sur Sidi.
Frédéric.
Juste pour finir sur Coman, moi, je pense que quand on voit quand même qu'il enchaîne les défaites avec cette équipe, qu'on ne voit pas de progression dans le jeu ou dans les intentions, bon, évidemment qu'il faut lui laisser du temps, mais dire qu'il est l'homme de la situation, qu'il connaît le Barça, faudrait quand même voir plus de résultats. Griezmann, ça va mieux. Mieux un match sur deux.
Donne-lui du temps.
Est-ce qu'on a
Griezmann
du temps
aussi,
quand on est dans
France,
un club comme le Barça,
bien,
c'est une institution,
aussi.
Et qu'on est 7e du championnat à 12 points du leader et qu'on a quasiment dit adieu à la Liga, est-ce qu'on peut avoir du temps?
Eh ouais. Justement, on n'a plus trop de temps et on aurait voulu en parler de l'Ovalie, mais on a pris trop de place avec l'invité. C'était parfait avec Monsieur Rabé Sondratana. Sans oublier aussi, le Real, le Barça. Mais la presse anglaise, on doit le dire, en sens nos bleus. Eh oui, le 15 de France et fustige quand même l'arbitre Andrew Bryce. Les bleus se sont tout de même inclinés sur la pelouse du fameux stadium de Twickenham, mais ont marqué quand même les esprits. On se retrouve dès demain, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Café des Artistes et Mourad. Et nous, à demain à 19h. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.